France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le 38e chapitre. L'Espagne, la France et les États-Unis dans le Mexique des années 60. Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre fidélité alors que nos pérégrinations en cette série de Carrefour des Amériques vont bientôt s'achever. En ces années 60, il est une actrice et chanteuse de boléro qui est une figure essentielle de la musique populaire mexicaine. Il s'agit de María Luisa Landín. Elle était née en 1921 et elle s'était rendue célèbre en interprétant la chanson portoricaine « Amor Perdido », une des chansons qu'on a entendues le plus souvent sur les radios mexicaines au XXe siècle. Les Caraïbes ont beaucoup compté dans la vie de María Luisa Landín. Elle a en effet vécu à Santo Domingo et à La Havane. Et La Havane a beaucoup influencé sa manière très cubaine de chanter les boléros, surtout les plus mélodramatiques qui faisaient les beaux soirs des cabarets de Mexico. Comme celui-ci, écrit par un jeune avocat, Pablo Valdés Hernández, pour un concours national et qui a remporté le premier prix. Le succès a été tel que le jeune Pablo a abandonné la carrière d'avocat et a vécu toute sa vie de ses chansons. Je sais que j'ai perdu au jeu de l'amour et que tu m'as humilié. Malgré tout, je reviens toujours vers toi et je te demande de revenir. Je donnerai ma vie pour toi et peu importe ce que les gens pensent de nous deux.
Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Sé muy bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor. Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas. Y mi cielo, y yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida te doy. Que la gente nos diga, conozco a los dos. Que vuelvas. Una vez, pero que vuelvas, mi cielo. Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida te doy. ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos. Conozco a los dos. Conozco a los dos.
En 1961, le cinéma mexicain est à nouveau à l'honneur quand le film de Luis Buñuel, Viridiana, coproduit avec la France, remporte la Palme d'Or à Cannes. Au Mexique, le compositeur Gustavo Pitaluga avait choisi pour ce film des musiques de Bach, Mozart et Handel. La ripaille des mendiants recueillis par la jeune Viridiana sur la musique du Messie est restée une scène d'anthologie. Au mois de juin au Mexique, c'est le poète espagnol Rafael Alberti qui est lui aussi à l'honneur. Il avait vécu un court moment à Mexico en 1935. Plusieurs poèmes de son recueil « Marinero en tierra »,« Le marin à terre » ont été mis en musique par Rodolfo Halfter et ces mélodies sont créées au Palais des Beaux-Arts par la soprano mexicaine Irma González. C'était une œuvre commencée en Espagne et que Rodolfo Halfter vient de terminer en son exil mexicain. La soprano espagnole Lola Casariego en chante ici trois extraits avec l'orchestre d'Extrémadure dirigé par Jesús Amigo. Comme ils sont hauts les balcons de ma maison, et pourtant on ne voit pas la mer. Chaque fois que je rêve des plages, elles sont désertes, avec à peine une voile là-bas au loin. Et moi, jeune marin à terre, je languis de revoir la mer.
Sueño las playas, los sueños solo es mi vida. Siempre que sueño las
La soprano espagnole Lola Casariego interprétait ici trois poèmes du Marin à terre de Rafael Alberti, mis en musique par Rodolfo Halfter. Au Mexique, le président Adolfo López Mateos, dès son arrivée au pouvoir, a tenu à modifier la loi électorale et à la démocratiser. Hélas, son autoritarisme l'emporte et il réprime durement les grèves, comme celle des cheminots, et les mouvements de protestation des paysans. En 1962, il est responsable d'un assassinat abject, celui du leader paysan Rubén Jaramillo, ancien combattant de la révolution de 1910. Le 23 mai, les militaires le surprennent dans la maison où il se réfugie avec sa femme et ses enfants. Ils sont tous exécutés sommairement. Aucune enquête n'a eu lieu et personne n'a été arrêté. Rubén Jaramillo est devenu un héros national et on a donné son nom à des écoles et à des villages. C'était l'épisode central de la symphonie en un mouvement de Carlos Jiménez Mabarak par l'Orchestre Philharmonique de Mexico, dirigé par Luis Herrera de la Fuente. Première œuvre importante, écrite par le compositeur après son séjour à Paris où il a étudié avec René Leibovitz. Il prendra plus d'une fois ses distances avec l'enseignement de son maître. Ainsi, dans cette symphonie créée en août 1962 au Palais des Beaux-Arts, il renoue avec le lyrisme des grandes compositions symphoniques mexicaines. Cette année-là, la chanteuse Elvira Ríos est rentrée des États-Unis, auréolée du succès qu'elle a remporté quand elle a chanté à Washington le 18 novembre 1961 devant le président des États-Unis. C'était lors du gala annuel du Club National de la Presse et elle a été la première artiste non américaine à participer à cet événement. Elle chante ici Te extraño, tu me manques, d'Armando Manzanero, compositeur d'origine indienne maya, dont les chansons étaient très à la mode en ce début des années 60 et qui ont été connues internationalement.
Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concibo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso, me siento solitaria. Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras, no sé, no sé, pero te extraño.
La saison lyrique est splendide à nouveau en 1962. Régine Crespin est revenue, et cette fois dans la Tosca, puis dans Aïda et la Valkyrie, aux côtés de John Vickers et de Mignon Dunn. D'autre part, le 25 février 1962 est une date mémorable dans l'histoire de l'opéra au Mexique. Ce soir-là, le ténor Plácido Domingo chante pour la première fois un rôle de premier plan, Mario Cavaradossi, dans la Tosca de Giacomo Puccini, et c'est sur la scène du Palais des Beaux-Arts. Une représentation organisée par la Fondation José Morales Esteves qui permet à de jeunes artistes de faire leurs preuves en public et de décrocher des bourses pour débuter leur carrière. Plácido a alors 21 ans et il est ovationné par le public. Il est aussitôt réengagé à l'Opéra de Fort Worth à Dallas pour interpréter le rôle d'Edgardo dans Lucia di Lammermoor le 10 octobre, c'est-à-dire un an après y avoir fait ses débuts dans un second rôle du même opéra, aux côtés de John Sutherland. L'enregistrement de cette Tosca n'est vraiment pas de bonne qualité, mais c'est très émouvant d'entendre le début de ce grand ténor. On l'écoute dans la deuxième partie du fameux air de l'acte 3, Il Luce van le Stelle, alors que Mario attend son exécution au château Saint-Ange.
Thank you.
L'air de Mario Cavaradossi de la Tosca de Puccini, Placido Domingo, avec l'orchestre du Palais des Beaux-Arts de Mexico. En cette époque où la colère gronde à nouveau, le Mexique peut compter sur le poète Jaime Torres Bodet, ministre de l'Éducation, pour redorer quelque peu le blason du président López Mateos, mis à mal par tant de répression. C'est à Torres Bodet qu'on doit la réforme de l'enseignement primaire, l'édition de livres scolaires gratuits et l'élan qu'il donne à la formation professionnelle. De l'autre côté de la frontière, la culture chicana connaît aussi un dynamisme nouveau en Californie et au Texas. Les chanteurs, habitués depuis longtemps à s'exprimer en anglais, remportent un succès inattendu en chantant en espagnol. C'est ce qui arrive dans les années 60 à Freddy Fender et surtout au célèbre Trini López, qui reprend la bamba de Richie Valens et même le célèbre chant de la Révolution mexicaine, La Adelita. Malgré l'ostracisme dont souffrent souvent les Chicanos, c'est à une véritable renaissance de leur culture à laquelle on assiste et le mouvement n'est pas près de s'achever.
Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si formaren un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven, a que yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Trini López es el guitarrista. En 1963, le compositeur Rodolfo Halfter est autorisé à rentrer en Espagne à l'occasion d'un concert donné à Madrid en l'hommage aux trois Halfter. Tous compositeurs. Ernesto, de retour de son exil au Portugal, son frère Rodolfo, devenu mexicain, et leur neveu Cristobal, qui sera invité peu après au Mexique. À son retour, Rodolfo, très ému de ce séjour dans son pays natal, délaisse les compositions de musique sérielle et écrit une série de tientos, où on retrouve l'héritier de Manuel de Falla. Les tientos, a-t-il expliqué, c'est un terme utilisé au XVIe et au XVIIe siècle en Espagne pour désigner des fantaisies proches du ricercare italien. J'ai placé en exergue de ma partition la phrase de Schoenberg « On revient toujours », titre d'un article écrit en Californie dans lequel il exprimait un profond désir de revenir à la musique tonale, comme il l'a fait dans son opus 43. C'est ce que fait aussi donc Rodolfo Halfter dans ses tientos, pourquoi tu raccordes.
Thank you.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le tiento numéro 8 de Rodolfo Halffter par le Quartetto Latino-Americano. Depuis l'été 1960, le poète espagnol Luis Cernuda fait beaucoup d'allers-retours entre le Mexique et la Californie. Il est en effet invité à donner des cours dans les universités de Los Angeles et de San Francisco. C'est une époque heureuse pour lui, car il apprend qu'en Espagne, grâce à de jeunes poètes, son œuvre est plus que jamais mise en valeur malgré la dictature. Une revue de Valence lui rend même un vibrant hommage. Au même moment, on publie au Mexique son dernier recueil, Desolación de la Quimera, la désolation de la chimère, qu'il a terminé à Los Angeles, dans son petit appartement à deux pas de la plage de Santa Monica. En juin 1963, le poète retrouve à Mexico la petite maison de son ami Concha, dans le quartier de Coyoacán, et sa chambre qui domine le beau jardin où jouent les enfants. Il doit retourner en automne à l'université de San Diego, mais il refuse de passer l'examen médical nécessaire pour reconduire son visa. Il craint en effet qu'on lui détecte une maladie cardiaque. Il est tellement persuadé d'en mourir bientôt. Le 4 novembre, fidèle à son habitude, il passe l'après-midi au cinéma de Coyoacán où il voit le film « Divorce à l'italienne ». Le 5 au matin, on le trouve mort dans sa chambre. Désolation de la chimère, le temps de vivre, le temps de dormir. C'est la nuit, tu vas à la fenêtre, le jardin en contrebas est dans l'ombre. Tu vois l'étoile du soir scintiller, étincelante et solitaire. C'est la beauté laissée à l'abandon qui te séduit et qui t'appelle au dehors. L'enchantement d'être vivant. L'homme le ressent dans de rares moments, qu'il lui faut alors partager, afin d'apprendre ce qu'est l'ombre et le sommeil. Comme Rodolfo Halffter, dont on entendait le tiento numéro 4, Luis Cernuda est lui aussi revenu au pays de l'enfance. Lui qui disait toujours refuser le folklorisme andalou, qu'il a gardé secrètement au fond du cœur la Séville de sa jeunesse et les plages de Malaga. Dans sa chambre de la maison de Coyoacán, on a trouvé le matin de sa mort sur sa table de chevet un livre de scénettes et d'intermèdes populaires andalous des frères Álvarez Quintero, très appréciés du grand public, tout comme leurs zarzuelas dans lesquelles l'Andalousie est si présente. Sur la plage au loin, on aperçoit la treille du café-restaurant où on peut se protéger du soleil, ses tables, ses bancs. Derrière une lignée de palmiers, comme un témoignage d'une latitude. Terre chaude. La matinée est bien avancée et il n'y a encore personne. Soleil, sable. La solitude et le temps habitent ici. Et toi, tu es le fils de cette solitude qui tombe à point et de ce temps à l'arrêt. Thomas Herzog à la tête de l'orchestre de Reitlingen dans l'ouverture de la Patria Chica, la petite patrie, Zarzuela de Ruperto Chapi sur un livret des frères Alvarez Quintero. Puisqu'on parle décidément de retour aux sources, en particulier chez les Chicanos des États-Unis, eh bien il y a une chanteuse Chicana qui est très emblématique, c'est Linda Ronstadt. En 1964, elle chante du rock avec des camarades de l'Université d'Arizona et devient aussitôt très populaire dans le pays. Elle sera par la suite une grande interprète de comédie musicale à Broadway. Ses ancêtres avaient des origines allemandes, anglaises et mexicaines. La famille de Linda a été très importante dans l'histoire de l'Arizona quand son arrière-grand-père est arrivé dans cet état qui était alors mexicain. Très tôt, Linda Ronstadt s'est passionnée pour deux chanteuses, la mexicaine Lola Beltrán et la française Edith Piaf. En 1987, elle a étudié plus sérieusement l'espagnol et enregistre son album Las Canciones de mi Padre, les chansons de mon père, consacré à de la musique populaire mexicaine, un album qu'elle a dédié à son grand-père et à sa tante qui lui fredonnait toutes ses mélodies. Et le Mexique l'a adopté. Elle y a chanté avec les plus grands interprètes de musique populaire. On l'écoute ici dans la charreada, la fête des charros cavaliers, avec en prime un jaripeo. une sorte de rodéo où il s'agit de chevaucher et de dominer des taureaux dans l'arène.
Ay, qué chula esta fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol. Charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición, rueneado de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuando es su animación, yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor. Upali 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 upali. Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor. La fiesta charra, fiesta del sol. No, de los charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición, relevo de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuánta su animación. Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor. Upali 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 upali. Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor. Ay, ay, ay.
La merveilleuse Linda Ronstadt. Carlos Jiménez Mabarak, en 1963, décide lui aussi de s'éloigner un moment de ses compositions dodécaphoniques. Il revient alors à sa passion pour la musique du XVIIIe siècle et il s'amuse à composer une sorte de pastiche plein de tendresse, son ouverture pour orchestre à cordes, un peu dans la lignée de la symphonie classique de Prokofiev ou de la Simple Symphony de Benjamin Britten. Et voilà une musique qui tombe à point cette année-là, car le musée de l'époque coloniale des vice-rois est sur le point d'être inauguré dans la capitale mexicaine.
Thank you.
l'ouverture pour orchestre de Carlos Jiménez Mabarak par le Concertus Hungaricus dirigé par Peter Popa. Au cours de ces années, le ballet folklorique national d'Amalia Hernández est devenu une institution culturelle incontournable et il est invité dans le monde entier. En 1963, Amalia peut même compter sur une personnalité majeure du théâtre mexicain en la personne de Celestino Gorostiza et sur l'un des plus grands danseurs mexicains, Guillermo Keys, qui décide de quitter le Ballet Moderne National pour se joindre à elle. Lors d'une tournée du ballet folklorique, Guillermo Keys découvre l'Australie et il décide de s'y installer dans les années 70. Il jouera un rôle déterminant dans ce pays en fédérant autour de son projet artistique les différentes communautés nationales. Ces années-là, le folklore est aussi plus que jamais d'actualité dans toute l'Amérique latine. Au Mexique, Gerardo Tamés fonde son groupe des Folkloristas qui sera célèbre dans toutes les Amériques. Les Folkloristas interprètent ici un petit air purépecha dans la langue de cette communauté indienne du Michoacán. C'était l'ensemble des Folkloristas. Et voici que la France revient au Mexique, et cette fois en grande pompe. En juin et en juillet 1963, André Jolivet dirige la création de la deuxième symphonie d'Henri Dutilleux et la troisième d'Albert Roussel à la tête de l'Orchestre symphonique de Mexico. Mais l'événement, c'est évidemment l'arrivée de la comédie française avec ses plus grands acteurs qui plantent ses tréteaux sur la scène de l'immense vaisseau du Palais des Beaux-Arts. C'est le début d'une tournée latino-américaine qui va conduire la troupe en Équateur, en Colombie et au Venezuela. Au répertoire, des œuvres de Molière, Musset, Racine et Feydeau, et à noter plus spécialement les lectres de Jean Giraudoux mises en scène par Pierre Dux dans des décors de Georges Vakevitch. Quelques mois plus tard, on est au mois de mars 1964, c'est le général de Gaulle qui est au Mexique durant 3 jours. Un séjour qui prélude au voyage qu'il réalisera par la suite dans 10 pays d'Amérique latine. Le 16 mars, il s'adresse à la foule rassemblée sur la place de la cathédrale El Zócalo, depuis le balcon du palais présidentiel où l'accueille le président mexicain. Dans son discours en espagnol, il dénonce à la fois l'hégémonie des États-Unis et celle de l'Union soviétique, dont Cuba représente pour lui une sorte de relais dans la région. Il propose aux Mexicains de s'allier à la France, et il termine son discours par le fameux « Marchons, mano en la mano », la main dans la main, sous les applaudissements de la foule.
Mexicanos, traigo a México el saludo de Francia. Francia saluda México con amistad. el pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México.
Le général de Gaulle rencontre lors d'une réception de grands artistes mexicains comme l'actrice María Félix, très attachée à Paris. Son ex-mari, Agustín Lara, n'est sûrement pas loin, car il vient de composer sa chanson en hommage à la France, Una Rosa de Francia, née comme une étoile là-bas au loin, en chantant un hymne à l'amour.
Como una estrella en la distancia, llena de luz y de esplendor, así nació Rosa de Francia, cantando el himno del amor, de su corola perfumada, un pobre bardo se prendó. Fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador, como una estrella en la distancia, llena de luz y de esplendor. Así nació Rosa de Francia, cantando el himno del amor, de su corola perfumada, el pobre bardo se prendó, y fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador, y fue la rosa más bonita en el jardín de un soñador.
Una Rosa de Francia, une rose de France, interprétée par Agustín Lara et son orchestre de solistes. En 1964, le président de la République López Mateos, alors en fin de mandat, inaugure en septembre avec son ministre de l'Éducation, le poète Torres Bodet, une série de musées magnifiques, notamment le musée d'art moderne, le musée du Virreinato du Mexique des Vice-Rois, un musée consacré aux œuvres de Diego Rivera et surtout le musée national d'anthropologie dans le parc de Chapultepec, un des musées les plus émouvants au monde, avec à l'entrée d'une des salles ces vers traduits du Nahuatl. Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir, no es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Nous ne venons ici-bas que pour rêver, nous ne venons que pour dormir, ce n'est pas vrai que nous venons vivre sur cette terre. Au mois de juin, avait été créée dans le cadre de la saison de l'orchestre symphonique une œuvre du tout jeune compositeur Mario Curi Aldana, qui évoque la musique des Aztèques et qui l'a intitulée « Xylophonias », c'est-à-dire, explique-t-il, des musiques interprétées par les bois. Et il utilise le pupitre des percussions et des bois de l'orchestre un peu comme des doubles, des instruments utilisés par les Aztèques. Son favori, c'est la marimba, qui correspond au teponastli aztèque. Le hautbois correspond, lui, à la chirimia, la chalimi aztèque, et ainsi de suite.
Thank you.
C'était le dernier mouvement de Xylophonias de Mario Curi Aldana. Le séjour du président français à Mexico a été bien sûr largement diffusé à la télévision mexicaine qui est en plein essor, puisqu'en 1963 débutent les premières émissions en couleur. Et bientôt, ce sont les telenovelas, les feuilletons télévisuels qui battent les records d'audience. Parmi les actrices qui y participent, il y a la chanteuse Lola Beltrán, une véritable idole dans son pays. José Alfredo Jiménez a beaucoup composé pour elle, comme ici, El Siete Mares, le marin des sept mers et océans à bord d'une sorte de vaisseau fantôme mexicain. Je suis un marin qui erre sur les mers, et je vis en défiant les tempêtes. On m'appelle les sept mers, car je vais de port en port, emportant en moi-même un amour déjà mort.
Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, marinero.
Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto,
llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto.
Yo ya quisiera quedarme junto a mi gran cariño,
pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticias tienes ahora de ese que me trae tan loco? Si es que todavía me quieres, dímelo poquito a poco. Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan. Cuando andemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas.
Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto,
llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto.
Yo ya quisiera quedarme junto a mi gran cariño,
pero esa no fue mi vida, navegar
es mi destino.
C'est avec ce chant du marin errant que s'achève aujourd'hui notre émission. Elle a été réalisée par Béatrice Trichet, merveilleuse complice passionnée de tous ces chapitres de Carrefour des Amériques, des chapitres disponibles en podcast. Nous nous retrouvons bien sûr dans le prochain épisode. L'attachée de production était Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.